ans. Et là, ben, tu es en train de me dire qu'un gouvernement décoté va donner encore plus d'argent à la caisse?
Ben oui, j'ai très hâte de voir si effectivement le gouvernement va finir par venir comment dire participer à l'équation finale là, pour financer le tramway. Mais oui, quand on prend par exemple le REM à Montréal, faut se rappeler quand ça a été annoncé initialement, c'était supposé coûter 5,5 milliards. Là, on est rendu à 9,5 milliards. C'est pas tout à fait terminé au niveau de l'addition des coûts. Et en plus, ben oui, faut rappeler que la Caisse de dépôt et placement du Québec, ça vient beau être notre bas de laine collectif, mais ça reste un fonds d'investissement. Donc éventuellement, si l'argent sort de la caisse, c'est en espérant bien sûr d'avoir un actionnariat dans le projet et d'avoir des dividendes par la suite. C'est pour ça que dans le fond, le projet au final, quand on prend, oui, l'enveloppe totale que ça va avoir coûté en termes d'infrastructure, mais il y a aussi des dividendes à calculer au courant des 40 prochaines années qui vont venir à la caisse, qui font en sorte que c'est pour ça que finalement le REM aura coûté pour loin de 19,5 milliards. Et qui paye pour toutes ces dividendes-là? Ben, c'est essentiellement les usagers, les municipalités, puis au final, une grande partie, pas loin de la moitié de la proportion de ces dividendes-là, ça va être payé par le gouvernement du Québec. Donc, le montage financier du REM, il coûte beaucoup plus cher avec la Caisse de dépôt et placement que si ça avait été fait directement avec un capital investissement de la part du gouvernement du Québec lui-même. Maintenant, on sait que le tramway Québec va être fait par la même gang. C'est la Caisse de dépôt et placement. Ouais. CDPQ Info qui va s'occuper du projet. Il y a déjà un problème dans l'équation, comme tu l'as mentionné, le fait que le fédéral, on n'est pas sûr s'ils vont mettre finalement l'engagement financier complet. La raison de ça, je pense que c'est le ministre Jean-François Simard qui a dit ça la semaine dernière ou la semaine d'avant en entrevue où est-ce qu'il révélait qu'on ne sait pas si l'argent est là, considérant que l'engagement initial du fédéral, c'est pour 40% du projet qui était évalué à 3,3 milliards. Mais là, la phase 1, on est rendu à 7,6 milliards en termes d'évaluation. Donc, c'est sûr et certain que si le gouvernement fédéral n'embarque pas, ben oui, ça va devoir venir soit d'un engagement encore plus important de la Caisse de dépôt ou ça va venir du gouvernement du Québec. On n'est pas sûr si on a la marge de manœuvre pour le faire. Donc, au final, ben oui, si la Caisse de dépôt prend plus de place dans l'équation, ben ça va coûter beaucoup plus cher à long terme, au sens où est-ce qu'il va falloir rentabiliser cet investissement-là.
Puis, Nick, je t'ai demandé de faire ton top 3, justement, des choses que tu avais marquées en 2025, et ta deuxième nouvelle était la décote du Québec par Standard & Poor's, une première depuis plus de 30 ans. Mais est-ce que c'est cette fameuse décote-là, puis même avant cette décote-là, ce fameux coussin-là qu'on avait pu au niveau du gouvernement du Québec qui fait qu'on doit se tourner vers la Caisse de dépôt pour nos grands projets d'infrastructure?
Je sais pas à quel point c'est directement lié. Parce que c'est sûr certain que la décote du Québec, ça envoie un très gros signal d'un au marché financier, mais aussi au gouvernement du Québec à dire, ben, il va falloir effectivement faire attention aux dépenses puis avoir un plan concret pour rééquilibrer les finances. Mais d'un autre côté, quand on regarde, par exemple, les budgets qui sont là pour les infrastructures, ben, ils ont constamment augmenté de manière assez drastique. Quand on prend, par exemple, le plan québécois des infrastructures, qui est quand même pas loin de 164 milliards de dollars d'investissement au courant des 10 prochaines années, cette enveloppe-là augmente quand même de manière assez importante à chaque année. Et pourtant, on a des projets qui font juste s'éterniser ou est-ce qu'on a des dépassements de coûts qui s'accumulent. Donc oui, effectivement, la Caisse de dépôt et placement vient jouer un rôle pivot, surtout quand on regarde le coût de nos projets d'infrastructure comme tel. Souvent, les acteurs étrangers, les entreprises sont peut-être pas intéressées ou seront pas en mesure de faire ça à un coût qui est raisonnable. Donc, la Caisse de dépôt vient on peut dire, répondre à un manquement dans l'équation. Mais d'un autre côté, il y a quand même la contrepartie où est-ce que ça reste un fonds d'investissement. C'est pas un fonds qui va juste garrocher de l'argent du bas de laine des Québécois dans tous les projets, dans toutes les directions possibles. Donc, effectivement, ça reste utile, mais ça nous coûte cher au final aux contribuables.
Oui, puis on a fait du ménage le plus possible aussi là, au courant du dernier mois. Il y avait des annonces. On a sabré dans les équipes et tout ça. T'sais, je me souviens de cette nouvelle-là qui avait fait jaser. Mais après tout, on devrait plus prévenir que investir dans les projets qui arrivent de façon immédiate. T'en es un qui surveille ça. Est-ce qu'on a à espérer que ça va se passer ou on devrait prendre un pas de recul?
Pour le projet du tramway?
Oui.
C'est une très bonne question. Je pense que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas d'engagement clair de la part du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec puis la ville de Québec et la Caisse de dépôt devraient peut-être mettre le pied sur le frein ou du moins ne pas mettre le pied sur l'accélérateur parce que encore là, pour l'instant, on sait que c'est la phase 1 va coûter 7,6 milliards. On n'a aucune idée de combien vont coûter les deux autres phases qui vont suivre au courant de la prochaine décennie. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'a pas une idée claire du montage financier initial, Je veux dire, s'engager plus loin, c'est plutôt s'engager, c'est un peu comme s'aventurer, je veux dire, à l'aveuglette en espérant que les choses vont finir par fonctionner. Surtout qu'il faut rappeler quand même que le tramway, pour être rentable, il va falloir qu'il y ait quand même beaucoup d'usagers. Il va falloir quand même qu'il y ait un engagement clair de la part des gouvernements, savoir, ou surtout des acteurs dans l'investissement pour qu'on les termine. Justement, est-ce que ça va coûter cher à long terme pour la gestion de l'infrastructure, pour sa rentabilité, c'est-à-dire comme on l'expliquait tantôt pour le REM, il y a beaucoup de cet argent-là qui va finalement être versé en dividendes à la Caisse de dépôt. Si finalement le tramway devient juste un versement de dividendes pour la Caisse, ça veut-tu dire que ça va coûter super cher à le prendre, puis même si c'est déficitaire et que c'est des contribuables qui se retrouvent à payer pour l'infrastructure et son fonctionnement, on va quand même alimenter la caisse. Donc, tout ça est à considérer. Pour l'instant, on dirait que le gouvernement veut quand même aller de l'avant, mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas un engagement clair du gouvernement fédéral puis vraiment plus de clarté sur le montage financier, aller plus loin, aller plus rapidement dans ce projet-là, c'est vraiment pas une bonne idée.
Non, c'est ça. Au niveau financier, ça demeure un projet qui est à risque. Mathias, ce matin, tu nous rapportais que le gouvernement du Québec a dépensé 280 millions pour rien dans un truc informatique. Là, résume-nous donc ça rapidement pour Nicolas.
Une petite poignée de change. Hein. Québec qui a remis 280 millions dans son vieux réseau. Donc, le contrat qui a été octroyé à TELUS en début du mois. Donc, on l'a octroyé discrètement. Là. On a comme dit à TELUS.
Oui, on a dit qu'il y a 280 millions.
280 millions. Dans le fond, c'est pour continuer l'entente avec TELUS pour l'ancien réseau du gouvernement jusqu'en 2028. Le petit problème là-dedans, c'est que le gouvernement s'est doté d'un nouveau système nommé Réseau gouvernemental de télécommunications. Parce que ça fait depuis 2017 qu'on veut se débarrasser du vieux puis avoir un nouveau. Fait que là, on a un nouveau qu'on a payé 46,9 millions. Qui était censé coûter 8,2 millions, je tiens à préciser. Mm-hmm. Là, c'est 5 fois plus élevé, mais en tout cas, on a payé 46,9 millions. Puis pour le brancher à l'ensemble des ministères, ça va coûter 33 millions. Donc, un nouveau réseau qu'on a développé qui coûte 80 millions pour remplacer l'ancien réseau, présentement, il n'est pas encore prêt.
Puis on a investi 280 millions dans l'ancien réseau.
On a shooté 280 millions dans l'ancien réseau alors que le ministère de la Cybersécurité avait promis et assuré qu'il ne remettrait pas une scène dans cet ancien réseau-là. Mais maintenant, on remet 280 millions alors qu'on a un nouveau réseau qu'on développe puis qui a coûté présentement 80 millions.
Nicolas Gagnon, directeur Québec Fédération canadienne des contribuables, dans un de tes points marquants de l'année 2025, tu avais la commission Galin, les déboires du gouvernement Legault dans le scandale Saclic. On a-tu appris de cette commission-là au vu de cette nouvelle?
Écoutez, j'espère qu'on aura appris des choses. J'ai très hâte de voir ce qu'on va apprendre aussi en février, là, quand on va voir toutes les conclusions de la commission qui vont être enfin rendues publiques. Puis c'est sûr et certain que ça nous a peut-être un peu ouvert les yeux par rapport à tous les autres projets informatiques qui ont lieu au Québec. J'ai entendu parler justement du fameux réseau donc TELUS au Québec. Je pense que ça avait coûté. On a mis 280 millions dans un réseau finalement qu'on va changer en cours de route. On n'aurait pas dû mettre ça 280 millions. Là, c'est ma compréhension. Puis c'est aussi à se demander comment est-ce que l'appel d'offres a été fait pour qu'on se retrouve à chevaucher entre deux projets qu'on finance. Mais il y en a un finalement qui va être bon, puis l'autre qui ne s'appuie à rien après qu'on ait mis autant d'argent. Mais la question devrait se poser aussi pour à peu près tous les projets informatiques qui ont lieu présentement, parce que on a appris, avec Saclic, c'est pas juste les dépassements de coûts de 500 millions qu'on a appris, c'est aussi tout le rôle que certains fonctionnaires avaient avec par rapport à la prise de décision qui ont mené à Saclic. C'est aussi le rôle des ministres. C'est aussi le fait qu'on a eu la première participation d'un premier ministre à une enquête ou à une commission publique, une commission d'enquête, que je pense pas que ça a eu lieu au Québec là, depuis plusieurs décennies. Je pense que c'était une première même dans l'histoire du Québec moderne. Donc ça, c'est quand même à considérer. Là. Ça a été vraiment peut-être le pire scandale de toute l'ère du gouvernement Legault. On en a appris beaucoup cette année. On va en apprendre beaucoup prochainement. Mais ce qui me fait peur un peu, c'est avec tout ce qu'on a appris par la suite, on se demande finalement est-ce que c'est juste la pointe de l'iceberg et qu'on n'a pas une situation similaire avec à peu près tous les autres projets informatiques qu'on a au Québec. Parce qu'on connaît la situation du projet CIFAR dans le système de santé là, qui a finalement été comme un peu mis de côté, mais dans lequel on s'attendait à des dépassements de coûts de pas loin de 100%. On a DSN, le dossier santé numérique, ça aussi des dépassements de coûts énormes. On a le système ARIMA en immigration, de pas loin de 40% de dépassements de coûts. Bref, on a fait qu'accumuler des dépassements de coûts et des délais supplémentaires pour les projets informatiques ou d'infrastructures numériques au Québec. Puis au final, ça clique, ça nous permet de comprendre qu'il y a peut-être beaucoup plus de problèmes qu'on le pense au niveau de l'intérêt de l'intégration de ces systèmes-là et aussi de comment est-ce que ces projets-là sont gérés par le gouvernement. Mais bon, ceci étant dit, on va en avoir le cœur net en février, ne serait-ce qu'à savoir qui est à blâmer réellement et comment est-ce qu'on peut éviter que ça se reproduise à nouveau. Mais je pense que c'était vraiment le scandale qui va avoir marqué l'imaginaire des Québécois. Là.
En effet, Nick, on veut terminer ton excellente chronique avec du positif. L'arrivée de Mark Carney a permis de faire souffler un peu les contribuables et ça a permis surtout de reparler de cette fameuse taxe carbone au Québec.
Oui, ben c'est ça. C'est rare que je vois un changement politique d'un point de vue positif dans la mesure où est-ce qu'à Ottawa, généralement, on n'a peut-être pas des grosses attentes, mais ça a l'air fou. Mais il y a à peu près un an, notre premier ministre, c'était Justin Trudeau. Puis quelques semaines après, ben c'était plus lui. Il annonçait sa démission le 6 janvier. Et après ça, bon, on se souvient de la suite des choses. Mark Carney est devenu premier ministre. Puis je suis pas là pour faire l'apologie là ou ni faire un acte de partisanerie ici. Mais je dois quand même dire une chose. Son arrivée au pouvoir a été quand même très intéressante à suivre, surtout par rapport à ce que nous offrait Justin Trudeau en termes de taxation. Puis il y a eu beaucoup de reculs de la part du gouvernement Carney qui ont été intéressantes. La première, c'est la fin de la taxe carbone fédérale pour les consommateurs. Ça, c'est très bon parce que d'une part, on donne un allègement fiscal aux Canadiens, mais d'une autre, ça permet au débat au Québec d'avoir enfin lieu sur cette question-là parce qu'on a notre propre taxe carbone et malheureusement, le gouvernement décide de la maintenir. Mais il y a aussi eu d'autres reculs au niveau fédéral comme on a annulé la hausse de l'impôt sur le gain en capital. On a aussi annulé la taxe sur les services numériques à cause de négociations avec les Américains. On a aussi offert une baisse d'impôt de 1 point de pourcentage. Je sais, c'était bien sûr une promesse électorale, mais qui a été livrée, qui est en vigueur depuis le 1er juillet dernier. 1 point de pourcentage de moins sur le premier palier d'imposition, c'est pas quelque chose sur laquelle on va cracher. Donc, c'est des bonnes mesures comme ça qui font en sorte que, ben, il y a eu quand même même si on n'a pas vraiment changé de gouvernement, parce que c'est quand même les mêmes libéraux qui sont là depuis 2015, mais il n'en reste qu'au moins, il y a eu une écoute par rapport aux enjeux que les contribuables pour lesquels les contribuables se sentaient du moins là, assez percutés par ça au niveau du coût de la vie. Donc au moins, je veux dire, il y a eu une écoute de la part du gouvernement Carney, c'est pas suffisant. On va espérer aussi que des partis de l'opposition continuent à faire pression sur Mark Carney pour qu'il livre davantage aux contribuables, mais ça a permis d'ouvrir effectivement la porte à pas juste à des allègements fiscaux, mais aussi à des débats importants qu'on doit avoir au Québec par rapport à notre propre taxe carbone.
Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup pour ta contribution à l'émission de ce matin. Je te souhaite de joyeuses fêtes, un bon début d'année 2026. Et si tu le veux bien, on se reparle dans la semaine du 5 janvier lors de notre retour en onde.
Oui, avec grand plaisir. Ben, écoutez, joyeuses fêtes à toute l'équipe et à tous les auditeurs. C'est un grand plaisir de se revoir ou de se reparler plutôt en 2026.
Yes! Merci beaucoup, Nicolas Gagnon.
Salut, Nicolas.
Salut, à bientôt.
Salut, c'était Nicolas Gagnon, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. C'est vraiment drôle ce qu'on vit à l'heure actuelle par texto, Pascal, parce qu'il y a Christian qui nous écrit qu'il n'y a même pas de poignée qui barre chez eux.
Oui, mais il y en a qui... c'est ça.
Ils habitent dans le Bas-Saint-Laurent,
même pas de système de sécurité. Mais là, dites-nous ça, Christian, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont déjà fait voler proche de chez vous? Vous n'êtes pas peureux?
Ben non.
Pensez qu'on était rendu plus peureux. Tu sais, dans les mœurs, là, maintenant, une poignée qui se barre, ben c'est un automatisme. Il y en a qui vérifient cette fois c'est barré. Pourquoi ils existent, ces gens-là? Ouais, je comprends, c'est des anxieux, peut-être.
Camille qui dit, elle, ça ne dérange pas que de ne pas barrer sa porte parce qu'elle a une vieille TV de 15 ans, pas d'ordinateur, puis elle a un sel qui est le plus récent et de 8 ans. Mais elle dit, oh, à ta minute, à bien penser, je dois avoir à peu près 1 million de Lego.
Ça vaut cher, ça, maintenant. Puis juste le fait que quelqu'un puisse entrer, là. Tu sais, moi, à Limoilou, bon, vous allez me dire à Limoilou, mais je suis dans un secteur où c'est pas commun, là. Il y a une personne en situation d'itinérance qui est allée cogner pour louer une chambre. Mm-hmm. Louer, je sais pas comment, mais c'est plus gratuitement là, dans ce cas-ci. Une chambre chez mon voisin.
Le temps de se refaire,
oui,
dans le fond.
C'est à la porte à côté de chez nous. Là. Vraiment, pas le bloc à côté, la porte à côté de la mienne. Fait que juste le fait que la personne entre, peu importe si c'est une personne en situation d'itinérance ou pas, c'est correct qu'elle se renseigne. Elle le fait de façon polie et tout ça, mais tu vois que n'importe qui peut entrer chez n'importe qui, là.
Ben oui. Oui, ben ça m'est déjà arrivé à Jonquière.
D'avoir quelqu'un chez toi?
Ouais, ben on était moi puis mon coloc, puis on entend du bruit dans la cuisine.
Non.
On arrive, puis quelqu'un, on est comme dans un seuf, et quelqu'un venait de descendre nos marches, puis on le regarde, il nous regarde, il nous dit « Et où Béatrice? » Puis on est comme « Il n'y a pas de Béatrice ici. » Il dit « OK, bonne journée. »
Moi, je suis pas sûr que Béatrice existait.
Moi non plus, je suis pas sûr que Béatrice
À Jonquière, ça m'est arrivé, il y a deux fois quelqu'un qui nous a volé. Qui est entré, qui a pris des affaires.
Là, c'est juste que V.A. Boys. Puis
ouais, c'est ça.
C'est Béatrice. Excuse-moi.
Excuse-moi, mais il n'y a pas de Béatrice
t'es
à Jonquière.
T'es pas un marchand de bonheur, je te le garantis. Non.
Mais il est remonté, puis il est parti. Ça ressemblait à ça dans l'intercation.
La jeunesse. La jeunesse.
Vous n'avez pas appelé
la région.
Police?
Ben, je veux dire.
Vous avez pensé que c'était vraiment bien.
Le gars semblait pas dangereux, rien. Bon. Fait que...
Continuez de nous écrire 418-971-1021 et d'interagir avec nous. Pascal, ça a été une grosse année en politique municipale l'année 2025. Ça a commencé avec un Bruno Marchand chambranlant qui a fini avec 18 conseillers et 49% du vote. T'aurais-tu pensé ça?
Jamais. À ce moment-là, jamais. On m'aurait dit de toute manière qu'il était majoritaire avec plein de nouveaux conseillers.
C'est
là.
Ça.
Une nouvelle équipe pour beaucoup, là. Jamais j'y aurais pensé.
T'aurais-tu pensé que Sam Hamad se planterait autant?
Je commence à avoir beaucoup de compassion et d'empathie, même si je sais qu'il y a un manque de respect au niveau de la vie politique, mais c'est sûr qu'une personne... Il doit pas être à 100% bien là, en ce moment là, pour agir de la sorte. Et Sam Hamad, ça a toujours été quelqu'un qui aimait parler aux gens, qui était volubile, qui... C'est-tu une blessure d'ego? C'est quoi qui se passe? Un petit peu d'empathie...
Je pense qu'il a sous-estimé ce que ça représentait faire une course électorale à la mairie de Québec.
Sa popularité puis la façon d'écraser Bruno Marchand.
En même temps, il avait une bonne popularité au début. Moi, j'ai l'impression, au contraire, lui, dans sa tête, ça allait être une marche dans le parc, puis il s'est rendu compte que finalement, c'était pas ça. Mais moi, j'ai un peu plus de difficulté à avoir de la peine pour quelqu'un qui, à la fin de sa campagne, pour moi, c'est un manque de respect envers tout le monde qui s'est présenté pour lui. Il est parti.
Ça,
aucune sortie.
Aucun remerciement
public à son équipe.
J'ai de compassion dans le sens, c'est sûr qu'il ne peut pas bien aller en ce moment. Il y a quelque chose de très fort au niveau des sentiments négatifs ressentis parce que effectivement, tout ce que ça donne comme image, c'est quoi ce manque de respect-là pour les gens qui ont cru en toi, les gens qui ont voté pour toi.
Les Isabelle Roy, les Louis Martin, Steven Malençon qui ont transféré de parti politique pour s'en aller avec lui.
Et qui ont choisi de le laisser l'idée aussi.
Oui.
Donc, je me dis, il doit avoir quelque chose. C'est là que j'ai... Je pense que c'est l'esprit de Noël là, qui m'amène à avoir un sentiment d'empathie.
Ça donne un grand cœur.
On va faire un retour sur cette année folle en politique municipale avec Alicia Despins, notre chroniqueuse en politique municipale, ex-conseillère dans Vanier-du-Berger. Et Alicia est rendue prof, fait qu'on va terminer la chronique avec ses 4 élèves de l'année. Ça va être très intéressant. Restez avec nous à Boulevard 102.1. Vous êtes à l'émission L'actualité ne prend pas congé. L'actualité ne prend pas congé.